c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler du Chili, de Venezuela en rapport avec les États-Unis. Nous allons vous parler de la Colombie, d'une surprise, il y a une intervention à l'Assemblée nationale, vous allez entendre. Ensuite, nous allons parler d'une actualité brûlante sur l'impérialisme. Je laisse la parole donc à Béatrice pour nous parler du Chili.
Oui, champ de bataille minier des puissances. C'est extrait du magazine Challenge. Cuivre, lithium, terres rares. Le pays suscite les convoitises de la Chine et des États-Unis. Le changement de cap politique qui induit une vraie économie libérale va avoir de lourdes conséquences sur un secteur crucial, les mines. Ce Big Bang intéresse au plus haut point les grandes puissances de la planète. Le Chili est le premier producteur de cuivre au monde. Pesant pour un quart, il possède 31% des réserves de lithium, minerai essentiel pour les batteries, et va démarrer l'exploitation de terres rares. Ce pays le plus long du monde devient ainsi le terrain d'affrontement de la Chine et les États-Unis dans leur course pour accaparer les minerais essentiels à la transition énergétique. Après avoir contrôlé les mines chiliennes, les entreprises états-uniennes ont subi la nationalisation de Salvador Allende en 1971, l'une des raisons du coup d'État d'Augusto Pinochet en 1973, appuyé par la CIA. Le général dictateur très libéral en économie va privatiser une partie du secteur, tout en conservant le lithium, considéré comme stratégique dans la sphère publique. Sous sa dictature, les États-Unis vont rester en position ultra-dominante pour extraire et contrôler les autres minerais. La bagarre Chine-États-Unis va être plus violente autour du magot des terres rares, dont dépend la fabrication de nombreux produits de la technologie. À 500 km au sud de Santiago, un projet d'extraction sur l'un des gisements de terres lourdes les plus difficiles à trouver en est à l'ultime étape d'évaluation environnementale.
Oui, on peut ajouter qu'il y a une mine de lithium dans le désert de l'Atacama, évidemment au Chili. Et il y a une entreprise qui a associé les États-Unis, le Chili et la Chine, qui ont signé un accord le 10 novembre dernier, en 2025, pour exploiter le plus grand gisement de lithium de la région.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando a la patria. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de gloria, socialistas.
Venceremos, venceremos. C'est une chanson de la jeunesse d'immigrés chiliens en Dordogne. Et nous allons passer à notre pays par rapport à l'Amérique latine, Venezuela et les USA, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, l'impérialisme prédateur. L'agression militaire contre le Venezuela est le syndrome d'un empire en déclin, mais plus dangereux que jamais, estime Franck Godichaud, historien spécialiste de l'Amérique latine. Alors je cite donc Franck Godichaud. En attaquant le Venezuela, Donald Trump veut faire main basse sur les gigantesques ressources pétrolières du pays, tout en renforçant sa mainmise sur l'Amérique latine. Le président états-unien entend placer le Venezuela sous la tutelle néocoloniale, tout en négociant probablement avec une partie de l'appareil d'État chaviste. Cette agression impérialiste représente une rupture avec les normes internationales et y compris, semble-t-il, avec la Constitution des États-Unis, car le Sénat n'a pas été consulté. Elle s'inscrit dans une forme de continuité avec les nombreuses interventions militaires sur le continent depuis la proclamation de la doctrine Monroe en 1823. En bombardant l'un des principaux pays du continent, Trump opère un saut qualitatif dans le gangstérisme impérial qu'il pratique depuis son investiture. En emprisonnant Nicolas Maduro, le président états-unien Trump veut reprendre le contrôle du Venezuela. Trump veut aussi discipliner l'ensemble du continent latino-américain, qu'il considère comme son arrière-cour, et contrer l'influence chinoise dans la région. Il a ainsi menacé la Colombie, Cuba et le Mexique, soit les pays non alignés, mais il s'agit aussi de faire pression sur le géant brésilien. Il ne faut pas oublier les motifs politiques intérieurs. Entre une économie qui va mal et la polémique soulevée par ses liens avec le président, le prédateur sexuel Jeffrey Epstein, Donald Trump est en difficulté. Une aventure militaire représente une excellente diversion.
Voilà la musique d'un film inoubliable, Les Facteurs, sur Pablo Neruda, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui. Mm-hmm.
Une histoire. Et nous allons passer à un autre pays de ce continent, la Colombie.
Oui, c'est sur la revue France-Amérique latine. À l'appel de leur président Gustavo Petro, des dizaines de milliers de Colombiens se sont rassemblés le 7 janvier sur les places du pays pour dénoncer l'opération menée par les États-Unis au Venezuela, mais aussi plus largement l'impérialisme états-unien et le risque de déstabilisation qui pèse désormais sur toute la région. Dans ce pays longtemps ami des États-Unis, la contestation monte et elle concerne désormais toutes les couches de la société. La place Bolivar est remplie de banderoles. De nombreux syndicats sont présents, mais aussi des fonctionnaires, des jeunes gens, comme des moins jeunes, une foule hétéroclite. Le président états-unien est devenu la bête noire des manifestants depuis qu'il a traité Gustavo Petro de malade qui aime prendre de la cocaïne. Un homme passe, muni d'une pancarte insultant les gringos, ce terme utilisé en Amérique latine pour désigner un étranger, en particulier d'origine états-unienne ou britannique. Maria tient la sienne à bout de bras. Sa pancarte indique « Nous sommes un peuple digne et souverain ». Face à l'interventionnisme états-unien, cette professeure défend l'union des pays latino-américains. Je cite « Nous entendons des voix s'élever comme celle de la présidente du Mexique ou celle de Lula da Silva au Brésil. J'espère que d'autres présidents vont reprendre leurs esprits et comprendre que ce qui est en jeu, désormais, c'est la dignité des peuples et des territoires. Comme beaucoup ici, elle espère aussi une voix plus forte des instances internationales, y compris de l'Union européenne. »
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous venons d'entendre une interprétation de Tenorio Junior en pianiste, musicien brésilien disparu en Argentine. C'est quelque chose de très, très tragique. Et pourtant, nous pouvons envisager un film sur lui. Et voilà, donc peut-être on va le faire, diffuser ici à RLP. Et nous avons aussi une surprise, l'intervention d'un député à l'Assemblée nationale. Vous allez entendre Stéphane Peu.
Les États-Unis viennent par leur action militaire au Venezuela de répéter la doctrine Monroe qui voudrait que le continent américain soit sous leur emprise. C'est toute l'Amérique du Sud et la Caraïbe, dont font partie les territoires et collectivités d'outre-mer, qui sont aujourd'hui déstabilisés. Une action menée en violation absolue du droit international et de la souveraineté d'un État. Voilà ce qu'aurait dû dénoncer la France par la voix de son président. Or, la déclaration du président Macron, immédiatement relayée par Donald Trump, est une insulte à notre histoire et une humiliation. En se rangeant derrière la stratégie américaine, il engage notre pays dans une voie dangereuse. Désormais, le Groenland est menacé et l'Union européenne, par son silence coupable, prépare une capitulation face à la logique coloniale américaine. En 2003, la France a su dire non aux Américains lors de l'invasion en Irak. Elle doit aujourd'hui dire non à ce nouvel acte de guerre impérialiste qui n'a d'autre but assumé que de s'accaparer les ressources pétrolières du Venezuela. Face aux différentes puissances, comme la Russie et Israël, qui s'évertuent à saper l'ordre juridique mondial, la France, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit s'imposer comme la garante du respect du droit international et de la Charte des Nations Unies. Elle peut entraîner la grande majorité des États qui croient encore que le progrès et la paix est du côté du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut savoir dire non aux États-Unis quand ils sont acteurs du désordre du monde. Notre Parlement doit être rapidement entendu et nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de saisir rapidement de l'article 50-1 notre Assemblée sur la position et le rôle de la France dans cette crise internationale.
Une interprétation de Igor Levit pour El Pueblo Unido jamás será vencido. Et nous allons parler de ce sujet dont a évoqué le député Stéphane Peu. N'est-ce pas, Béatrice? On va parler de l'impérialisme états-unien.
Oui. Oui, la source vient du mensuel Le Monde diplomatique. Donc, il y a plusieurs dates que je vais vous citer. 1823-1896, 2 décembre 1823, formulation de la doctrine Monroe. Sous prétexte de lutter contre les ingérences européennes, Washington entend instaurer son hégémonie sur tout le continent. 1852-1853, les Marines débarquent en Argentine et au Nicaragua, secouées par des troupes pour y protéger les intérêts états-uniens. En 1860, Washington envoie des troupes en Colombie, où vient d'éclater une révolution. En 1899, les troupes états-uniennes et britanniques prennent le contrôle de San Juan del Norte au Nicaragua. En 1903, corollaire à la doctrine Monroe, le président Theodore Roosevelt s'arroge le droit d'exercer un pouvoir international de police. Les Marines occupent Puerto Cortés au Honduras et Saint-Domingue en République dominicaine. Une rébellion protégée par l'US Navy déclare l'indépendance du Panama vis-à-vis de la Colombie. En 1906, les États-Unis interviennent à Cuba à la suite de troubles consécutifs aux élections. Ils administreront l'île jusqu'en 1909. 1907, Washington dépêche des troupes au Honduras pour protéger ses intérêts, menacés par la guerre qui oppose le Honduras au Nicaragua. En 1909, les Marines sont envoyés au Honduras en proie à une guerre civile afin de protéger les compagnies bananières états-uniennes. En 1916, les États-Unis forment un gouvernement militaire en République dominicaine. L'occupation du pays prendra fin 8 ans plus tard.
El Choclo, interprété aussi par une pianiste, Sanga Nona. Et nous allons évoquer encore juste trois
dates concernant l'impérialisme nord-américain. En 1965, au nom du danger communiste, les États-Unis envoient 20 000 soldats en République dominicaine pour réprimer une insurrection favorable au rétablissement de Juan Bosch, président constitutionnel. En 1973, le président chilien Salvador Allende trouve la mort lors du coup d'État dirigé par le général Augusto Pinochet, qui agit en concertation avec Washington. En 2002, les États-Unis participent en sous-main au coup d'État tenté le 11 avril contre le président vénézuélien Hugo Chavez.
Et alors, il y a une question, n'est-ce pas, Béatrice?
Pourquoi les États-Unis attachés à la démocratie préfèrent-ils si souvent donner son appui à des régimes autoritaires d'extrême droite plutôt qu'à des gouvernements démocratiques? C'est qu'avec des gouvernements possédant une solide assise populaire, il est plus difficile de traiter qu'avec des hommes qui ne représentent qu'une minorité conservatrice et ne s'appuient que sur la force militaire et l'aide extérieure. En outre, un gouvernement démocratique sera porté à satisfaire les revendications populaires, à faire cesser les privilèges auxquels les intérêts économiques états-uniens sont généralement associés. Voici ça, c'était d'après Le Monde diplomatique.
Thank you.
au rythme brésilien, notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.